Vous écoutez le studio Kalangou, bonsoir, bienvenue les 18h, l'heure du journal en français. Diallo, Mariama Kenda au micro et voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Deux citoyens nigériens tués hier et un citoyen de nationalité américaine enlevé dans la région de Tawa, département d'Abalak. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique déclare que les assaillants ont pris la route vers le Mali, poursuivis par les forces de défense et de sécurité nigériennes. Un conseil de sécurité s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État, Mamadou Issoufou. Les artistes qui représenteront le Niger au 8e jeu de la francophonie sont connus. Ils ont été présentés hier soir au cours d'une cérémonie organisée par le ministère de la Renaissance culturelle. On en parle dans la partie magazine de ce journal. Très ravi de vous retrouver pour cette édition dans le département d'Abalak, région de Tawa. Hier, aux environs de 21h, un groupe de personnes armées à bord d'un véhicule de marque Hilux a fait irruption au domicile de M. Jeffrey Woodkey, de nationalité américaine, installé dans la localité depuis 1992 et travaillant pour l'ONG Jemed. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, les assaillants, après avoir tué un garde national et le gardien de la maison, ont enlevé le citoyen américain avant de prendre la direction du Mali. Sidio Kalangou a joint Mahamadou Ider, préfet du département d'Abalak, et répond aux questions d'Adama Dawaki.
Effectivement, hier, aux environs de 21h, nous avons été victimes d'une attaque à l'aide d'un véhicule qui est venu au centre-ville de notre entité et qui a attaqué le domicile d'un Américain. Cette attaque a fait malheureusement deux victimes, un garde national et le gardien civil de l'Américain. Et les attaquants ont pris l'Américain et ils l'ont enlevé. Ils sont partis avec comme il faisait nuit. Et nous, à notre arrivée déjà, il y avait que leurs traces. Il semblerait que ces deux individus qui sont descendus du véhicule et ont commis les forfaits et qui ont pris l'Américain. Et ils ont repris leur chemin avec. Personnellement, je ne sais pas s'ils sont habillés en tenue civil ou en tenue militaire. Ça me fait à peine un mois et demi que je suis ici en tant que préfet, mais je le connais en personne. Mais il ne m'a jamais fait part, en tout cas, d'une quelconque inquiétude, d'une quelconque menace extérieure. Ça, jamais, il ne m'a jamais parlé de ça. Par ses bras croisés, nous avons fait tout ce que nous pouvons faire. Nous attendons les résultats. La zone d'Avalar est une zone de paix. La population de la ville était surprise de l'événement d'hier.
Mahamadou Ider, préfet du département d'Abalak. Autre témoignage, celui d'un habitant d'Abalak. Il a raconté les faits à Adama Dawaki.
J'ai rentré chez moi pour prendre mon téléphone. J'ai entendu des premières tirs. J'ai pensé que c'est des enfants même qui jouent avec les tétards. Il y a une moto qui a passé chez moi à une vitesse anormale. Les motos s'est arrêté un peu quelques secondes vers la voiture. Il a passé. Il a rentré de la ville. On ne sait pas là où il a passé. Il y a la voiture aussi qui s'est arrêtée devant les maisons des Américains.
Les assaillants qui sont venus pour l'attaque, ils sont au nombre de combien?
Provisoirement, c'est au nombre de trois. Parce qu'il y a quelqu'un qui est de la voiture et les qui ont sorti pour prendre l'Américain.
Ils parlent quelle langue?
Personne ne peut les identifier comme ça. Et personne ne peut dire ni des terroristes ni des musulmans. Nous venons de... L'opération n'a même pas duré 10 minutes.
Selon vous, pourquoi ils ont tué les deux Nigériens?
Là, je n'ai aucune idée. Moi, tu sais que c'est tant qu'il est à Barak vers 20h, il passe chez les voisins. 22h, il est chez eux. La voiture qui a pris l'Américain, on nous a dit qu'elle a passé sur Adégué. Vers 23h, 6 minutes, elle a passé sur Adégué.
Adégué, c'est où?
Adégué, c'est 80 km sur la route de Djéry.
Propos recueillis par Adama Dawaki. Le ministère de l'Intérieur, dans un communiqué, confirme que les forces de défense et de sécurité sont mobilisées en vue de rattraper les assaillants. Un conseil de sécurité s'est tenu ce matin à la présidence, présidée par le chef de l'État, Mamadou Issoufou. Suite aux événements survenus hier à Abalak, nous venons d'apprendre que le président de la République, Issoufou Mamadou, a dû annuler son déplacement à Lomé au Togo, où il devrait prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Le 2 octobre dernier a eu lieu à Ouagadougou le lancement du projet de construction des mémorials Thomas Sankara. La délégation nigérienne ayant pris part à cette cérémonie envisage d'organiser ce soir à la place Abbé de l'Université de Niamey une campagne de mobilisation des fonds. Voici les explications de Abdoulaye Seydou du réseau panafricain pour la paix et le développement.
Nous sommes dans la logique d'établir des relations plus serrées entre Agadez et Tawa et par rapport donc aux wilayas de Tamanrasset et de Illizi. Nous sommes très disposés à travailler avec l'Algérie et les Algériens sont également très disposés à travailler avec le nord du Niger. Donc je peux retenir que pour resserrer ces liens de fraternité entre nos deux pays, nous avons demandé la réouverture du consulat d'Algérie qui se trouve à Agadez. Nous avons demandé l'ouverture de la frontière entre nos deux pays. Nous avons demandé à dynamiser les questions de jumelage entre villes, à la fois au Niger et en Algérie. Nous avons demandé beaucoup de formations pour les forces de défense et de sécurité et beaucoup de coopération également pour les forces de défense et de sécurité de deux côtés. Nous nous sommes également intéressés à la vie de nos compatriotes qui sont en Algérie.
Vous venez donc d'entendre les précisions de Sabou Soloke, gouverneur de la région d'Agadez et chef de délégation nigérienne. C'était au sujet du comité bilatéral entre l'Algérie et le Niger. Donc une délégation nigérienne de 80 personnes composée de deux régions d'Agadez et Tawa avait effectué une visite à Tamassa. À Tamarassé, en Algérie, le 10 et le 11 octobre dernier. Revenons à présent donc sur cet événement qui a eu lieu le 2 octobre dernier à Ouagadougou, le lancement du projet de construction d'un mémorial Thomas Sankara. Écoutons à présent les explications de Abdoulaye Seydou du réseau panafricain pour la paix et le développement.
Le projet de construction du mémorial Thomas Sankara est né de la volonté de fédérer plusieurs initiatives pour rendre visible le plan d'action de la révolution burkinabé de 1983. Il vise à immortaliser les actions salvatrices et historiques de Sankara pour un monde juste et une Afrique libre à travers la construction d'infrastructures multidimensionnelles à caractère de musée et de formation éducative, sportive, culturelle sur une superficie de 3 hectares sur le site de l'ancien siège du Conseil de l'Entente où a été tué le capitaine Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Convaincu que le panafricanisme et l'idéal de Sankara constituent la voie incontournable pour le développement d'une Afrique libre et digne, nous, jeunes Nigériens, avons fait le serment de mobiliser le peuple nigérien et la jeunesse nigérienne en particulier à contribuer financièrement à la construction du mémorial Thomas Sankara.
Propos recueillis par Ailatou Soumana. Le ministre délégué au budget a officiellement présenté hier à l'Assemblée nationale le projet de budget pour l'exercice 2017, un budget qui s'élève à 1809 milliards de francs CFA contre 1807 milliards en 2016, soit 0,13% d'augmentation. Ce nouveau budget suscite déjà des interrogations au niveau des structures de la société civile. Selon Hassan Boukar, expert en analyse budgétaire, les Nigériens doivent encore attendre de voir comment le Parlement va analyser et traiter ce budget.
C'est donc un budget qui reste à peu près dans la même proportion que celui de l'année dernière. Mais à l'intérieur, on peut toujours voir les changements qu'il y a, puisque même si les chiffres sont presque les mêmes, il peut y avoir beaucoup de différences à l'intérieur. Par exemple, je constate que le chiffre de la dette publique augmente quand même. C'est une des rubriques qui connaît une hausse sensible, je crois, de 9%, un peu plus d'ailleurs, près de 10% par rapport à l'année dernière. Lorsqu'on regarde les détails, on se rend compte, par exemple, que du point de vue des emprunts obligataire. On va dépenser beaucoup d'argent cette année, au moins 53 milliards en ce qui concerne le capital, au moins c'est une vingtaine de milliards en ce qui concerne les intérêts et tout ça. Même si les chiffres entre l'année dernière et cette année sont presque les mêmes, on voit qu'il y a quand même des changements. On se rend compte aussi que, par exemple, quand on regarde les titres en ce qui concerne les dépenses de biens et services, les subventions et transferts, il y a quand même des baisses relatives par rapport à l'année dernière.
Propos recueillis par Mokhtar Ramadou. La célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la vue par le ministère de la Santé publique, une journée célébrée tous les 13 octobre. C'est le centre de la santé c'est le centre de santé intégrée de Goudel qui a servi de cadre pour la célébration de cette journée. Le thème de cette édition, impact du programme Vision 2020 sur le VIH. Le programme Vision 2020 a pour objectif l'élimination des principales causes de cécité évitables et ou peuvent être traitées d'ici 2020. À l'issue de cette célébration, une campagne de chirurgie gratuite de la cataracte au profit de la population a été initiée. Aladji Bilal est l'un des patients. Il est borgne depuis un an. Il a des difficultés de vision avec l'autre œil.
Je suis venu pour soigner mes yeux. Je ne vois pas bien. J'ai un œil qui est complètement détruit il y a de cela un an. Ça a commencé par des démangeaisons. Après plusieurs consultations, j'ai pu sauver un œil. Mais l'autre ne voit toujours pas.
Selon le technicien du ministère de la Santé publique, Abdourahman Salifou, 80% des cas de cécité sont évitables ou même guérissables. Il revient ici sur les causes majeures de cécité au Niger.
Les causes majeures de cécité affectant les personnes au Niger sont la cataracte, le trachome, le glaucome et des infections cornéo-conjonctivales. Pour revenir au thème de la présente journée, impact du programme Vision 2020 sur le VIH, il me plaît de rappeler que l'infection à VIH-SIDA est responsable des manifestations oculaires qui peuvent se compliquer dans les pays à faible revenu. Une enquête hospitalière transversale sur 2 mois menée à l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique IOTA de Bamako a montré la place importante des complications oculaires de l'infection à VIH dans le handicap visuel de la population la plus active sur le plan économique et social. Mettons à profit cette journée pour être encore plus près des personnes atteintes de cécité évitable en les aidant à retrouver la vue. Conduisez-les à nos services de soins oculaires qui vont leur permettre d'améliorer notamment leur vue.
Abdourahman Salifou, le technicien du ministère de la Santé publique. Une autre journée mondiale, celle des lavages des mains, célébrée tous les 15 octobre. WaterAid lance cette année une campagne au niveau international pour permettre aux nouveaux-nés d'avoir des conditions de vie décentes. Au Niger, c'est à Dougas, canton situé à 150 km du Zinder, que cette campagne a été lancée. Selon le président du réseau nigérien des journalistes pour l'eau et l'assainissement, le REGEA, 99% des maladies mortelles sont liées au manque de lavage des mains. Il affirme qu'en ce qui concerne les nouveau-nés, les chiffres sont alarmants.
Donner aux nouveau-nés un départ sain avec un accès adéquat à l'eau et aux bonnes conditions d'hygiène et d'assainissement garantira et assurera au bébé, en tout cas, une santé meilleure pendant toute la vie. Il faut dire en 2013, plus de 2,7 millions de bébés sont décédés au cours des 4 premières semaines de leur vie. Ces problèmes touchent très largement le pays en voie de développement où plus de 99% des décès néonatales se produisant dans le pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc il faut également préciser que les recherches montrent qu'en assurant à chaque bébé un départ sain, le risque de contracter ces infections chute considérablement. L'une des études a montré aussi que la mère et l'assistant à l'accouchement se lavent les mains. La probabilité qu'un enfant décède au cours du premier mois de sa vie est diminuée de plus de moitié.
Ousmane Dambaji, président du REGEA, c'est l'heure de la partie magazine de cette édition. Le ministère de la Renaissance culturelle, des arts et du développement social a procédé hier soir à la présentation des artistes sélectionnés pour représenter le Niger au 8e jeu de la francophonie. C'était au centre culturel Oumaruganda. C'est par une belle chorégraphie qu'a débuté la soirée culturelle de présentation des artistes. Des pas harmonieux de danse contemporaine exécutés par une dizaine de jeunes. Malgré la méconnaissance de cette danse par les Nigériens et des difficultés pour répéter, l'encadreur de l'équipe, Kafando Idrissa, nourrit beaucoup d'espoir.
Il faut dire que pour cette création-là, on a eu vraiment moins de temps, environ 8 jours, un truc comme ça. Donc on a fait vraiment un travail qui était un peu commando, quoi. C'était difficile, mais comme ils sont un peu professionnels, vers la fin, ça a payé ce que vous avez vu.
Vous y croyez? Vous avez beaucoup d'espoir quant à ces jeunes?
J'y crois, j'ai beaucoup d'espoir. Voilà pourquoi on est là, voilà pourquoi on travaille, et voilà pourquoi on ose représenter, se mettre en danger sur scène pour voir ce que ça va donner.
Pareil pour le hip-hop, une danse qui est mal perçue au Niger. Ismaël, un cadre du groupe E-Trans, le groupe hip-hop qui représentera le Niger à ses 8e Jeux de la francophonie, estime que malgré les difficultés, le combat mérite d'être mené.
Ça a été plutôt difficile parce qu'on manquait de fonds, mais quand même, on s'est un peu débrouillé pour trouver des trucs, pour pouvoir un peu colmater les différents problèmes qu'on a eus, parce que vraiment, c'est pas facile. Quand il s'agit de hip-hop, en tout cas, c'est mal vu, on va dire, dans ce pays, parce que quand on parle de hip-hop, les gens pensent délinquance, drogue, ils pensent à pas mal de choses, que du côté négatif. Mais moi, je pense que grâce à ça, on va essayer de montrer aux gens que le hip-hop, ce n'est pas que ça. Le hip-hop, c'est un langage, ça te permet de parler de pas mal de choses, de la vie, etc. Voilà.
Pour le ministre de la Renaissance culturelle, Asmana Malamissa, c'est une équipe compétitive qui a été retenue à l'issue de cette sélection.
Le sentiment que j'ai aujourd'hui avec les prestations que je viens de voir, c'est que véritablement le jury ne s'est pas trompé. Nous avons eu des jeunes talentueux, nous avons eu des troupes bien organisées et cela nous met en position de nous dire il faut dégager les moyens, il faut dégager le temps et il faut mettre l'encadrement dans les conditions de les suivre, de leur donner le maximum de compléments pour que ces prestations-là puissent être de haute posture et être véritablement les meilleures pendant ces Jeux de la francophonie.
Le rendez-vous est donc pris pour le 17 juillet à Abidjan. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure.